Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la loi Duplomb. Cette dernière a pris le nom d'un sénateur mais son nom officiel est proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. En gros, rendre plus facile l'agriculture productiviste. En effet, depuis le début du 21e siècle, des contraintes liées à la dangerosité de l'activité agricole, enfin celle-là en l'occurrence, l'activité productiviste qui veut que on pollue les eaux, on pollue l'air, on pollue les sols, ça avait compliqué en fait un certain nombre de lois, une législation sur l'environnement avait compliqué l'utilisation des pesticides, avait même interdit des pesticides qui, rappelons-le, perturbent nos endocrines, détruisent nos milieux de vie et ceux qui y habitent, c'est-à-dire les végétaux, mais aussi les animaux dont nous sommes. Ces contraintes compliquaient aussi la création d'installations dangereuses pour l'environnement, comme des élevages industriels qui produisent beaucoup de nuisances et de déchets, comme du caca d'animaux. Ces créations étaient compliquées par les enquêtes publiques notamment, et la législation sur la protection de l'environnement. Seulement, la mode est au retour sur les protections environnementales, qui sont minimales, hein, puisqu'on le voit bien avec, par exemple, les invasions littorales d'algues vertes. Bah oui, s'il y avait vraiment une protection, il n'y aurait pas ce genre de truc. L'érosion de la biodiversité animale et végétale dans les campagnes, s'il y avait une vraie protection, il n'y aurait pas également cette érosion de la biodiversité. Les protections sont minimales, mais c'est encore trop. C'est encore trop pour les adorateurs de l'accumulation. Et pour faire plus, faut avoir les mains libres. Ce que réclament les libéraux en économie. Et en ce moment, nos soi-disant représentants sont terriblement à l'écoute de ceux qui sont libéraux en économie. Oui, il faut dire qu'ils sont eux-mêmes libéraux, en très très grande majorité, et ils sont très riches, quand on parle des deux tiers des membres du gouvernement, par exemple. Voilà pourquoi la loi Duplomb propose de revenir sur l'interdiction des néonicotinoïdes, une sorte de pesticide tueur d'insectes, et notamment d'abeilles, mais qui protège nos betteraves à sucre. Le sucre, la drogue dure, par excellence. Voilà pourquoi la loi Duplomb veut remettre l'ANSES, par exemple, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement, et du travail, en phase avec les intérêts de ceux qui nous gouvernent actuellement. Et voilà pourquoi la loi Duplomb veut également réduire les recours des populations contre la construction des ICPE, toutes ces installations soumises à des seuils de pollution à respecter. Pour tous ceux qui s'interrogeraient sur les motivations du monsieur Duplomb, une information comme ça. Entre 2013 et 2017, il est président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire en tant que représentant de la FNSEA. Ah bah oui, ça dit des choses. Mais sa bataille parce que la lutte, c'est la vie. Ouais, on pourrait très bien penser simplement plage et barbecue, hein. Mais ce serait abdiquer notre humanité. Non, ne devenons pas simplement des consommateurs, restons des êtres humains. Alors à côté des figures imposées de l'été, on peut aussi s'engager dans la défense de nos milieux de vie. Pour les auditeurs du direct, vous pouvez vous rattraper en vous renseignant lors du marché des Jacobins dimanche 29 juin entre 10h et 12h, ça devrait déborder un peu. On aurait pu également vous parler d'escroquerie intellectuelle, celle de partis politiques à l'approche des élections, qu'elles soient municipales ou présidentielles. J'ai pas dit des partis politiques, hein, puisque sûrement qu'ils sont sincères dans le lot. Mais là, la semaine dernière, des militants de Place Publique ont tracté. Sachez que Place Publique se compose de radicaux, réalistes, profondément humanistes. C'est le gros titre ou le slogan qui est en tête du tract, qui nous permet de mieux les connaître. Le tract propose de tout changer. Alors là, attention, éloignez les enfants, je vais citer des morceaux de Place Publique. Je vous rappelle qu'ils sont radicaux, réalistes et profondément humanistes. Alors, soyons réalistes. Il est temps de tout changer, changer nos manières de produire, de consommer, de nous déplacer pour réparer nos liens humains et la planète. Ouais, moi je me dis, oh là là, Place Publique, ça a l'air sympa. Je continue. Changer notre économie pour qu'elle ne serve plus à enrichir une petite minorité multinationale ultra riche, mais qu'elle permette à la grande majorité des citoyens de vivre dignement. Et là, je me dis, et pour les autres ? Parce que la grande majorité, c'est quoi ? C'est quoi cette société profondément humaniste où Place Publique se contente de permettre à la grande majorité de vivre dignement ? Une partie des humains ne vivant pas dignement, s'ils sont pas trop, c'est bon, ça passe. Et relisez-vous les gars, hein, quand vous voulez être radicaux et profondément humanistes. Bon, on a quand même tourné le tract et là, il y a des urgences sociales, démocratiques, européennes, féministes, dans l'air du temps quoi. Et puis écologique, on le lit. Alors que le climat se réchauffe et se dérègle de plus en plus vite, nous devons relever de nombreux défis simultanément. De point, accélérer la décarbonation de notre économie, renforcer la transition énergétique, protéger la biodiversité, garantir la gestion durable de nos ressources. Une action concertée et cohérente est indispensable à l'échelle de nos régions, de notre pays et de l'Europe. Rien de bien révolutionnaire, hein. Il n'y a aucun moment l'affirmation d'une rupture avec un système qu'on appelle le capitalisme, ce système économique basé sur l'accumulation de parts de marché et de profits. Bon, bah, je reprends le slogan de départ, hein. Et puis il y a des trucs à enlever. Eh ben, radicaux, non ? Profondément humaniste, c'est peut-être pas la peine de le dire, hein, quand on veut juste la majorité de la population vivre dignement. Ouais, ben, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils sont, place publique ? C'est surtout réaliste. Prenez le changement pour que rien ne change, à part les têtes de gondole qui font carrière en politique, un concept déjà en place sous Mitterrand, et bien avant lui. Tiens, sans transition, le ravi de Vendée qui triche à Interville a annoncé une campagne d'adhésion pour le parti qu'il dirige, à savoir les Républicains. Le slogan ? La France des honnêtes gens. Et les gens, bah, juste pour vous éclairer, une liste non exhaustive, vous chercherez pourquoi, quel est leur point commun ? Rachida Dati, Nicolas Sarkozy, le couple Balkany, Éric Woerth, Jean Tiberi, Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin. Oui, ils ont tous été membres de, des Républicains où ils en sont encore, mais il y a un autre point commun. Sans transition, cette semaine fut créé un nouveau parti politique, la France humaniste. Décidément, l'humanisme a le vent en poupe. Pourquoi ? Eh bien, toujours pareil, hein, dire qu'on fait de l'humanisme pour ne pas en faire, c'est catastrophique. Un parti modéré, ni trop de gauche, mais qui fait du social, ni trop de droite, mais même libéral en économie. Il est présidé par Dominique de Galluzzo de Villepin, ex-premier ministre de Jacques Chirac. Il quitte d'ailleurs ce poste en 2007. Et depuis, c'est un très bon client des médias, avec du bagout, de l'aisance, une stature et des idées qui ne bousculent pas le bourgeois, c'est bien ça. Dans la vie, Dominique Galluzzo de Villepin est avocat. Depuis 2008, il possède une société de conseil et de lobbying et il gagne très bien sa vie. Eh, tant mieux pour lui, je dirais, en faisant du lobbying. Eh ben, ça ne l'empêche pas de profiter des avantages dévolus à tous les ex-premiers ministres. Avantages qui avaient fait scandale début 2024, alors que nos soi-disant représentants tenaient absolument à tondre encore plus le Pékin moyen en oubliant de regarder ce qu'il dépense lui-même, notre représentant. En 2023, Dominique de Villepin a utilisé 197 000 euros appartenant à la communauté au titre des avantages qui sont dévolus à tout ex-premier ministre. C'était donc pour des frais de transport et de personnel, chauffeur, secrétaire par exemple. En 2024, ce sont 207 000 euros qu'il dépense à nos frais pour son train de vie. Cette anecdote à 400 000 euros sur deux ans me laisse à penser qu'avant de représenter qui que ce soit, Dominique Galluzzo de Villepin se gave lui-même. On aurait pu vous parler de la malhonnêteté de l'extrême droite. Ah bah oui, non, mais oui, si, quand même. Qui nous resserre le chiffre du coût de l'immigration cette semaine. D'entrée de jeu, c'est un débat piégé à éviter, hein. Mais qui nous montre bien que la droite peut penser les humains en termes de coûts, comme si c'était des piles, ou des tonnes de blé, ou bien des ressources humaines. Ah bah oui, des objets, ça plaît à la droite. Vous n'êtes rien d'autre que quelque chose qui peut rapporter un peu de pognon, ou pas. Alors si vous en coûtez, pour comprendre comment l'extrême droite mobilise ses propres troupes pour faire croire qu'elle s'appuie sur des données scientifiques, on vous renvoie à l'excellent site de Bunkers de Hoax.org. Mais comment ça peut bien s'écrire ? Donc, il débunk. Donc, Debunkers de Hoax.org, Debunkersdehoax.org. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses, mais finalement, on a préféré vous parler d'industrie verte, mais réellement verte. Mercredi 18 juin, les militants du parti Europe Écologie Les Verts de la Sarthe, qui s'appelle officiellement maintenant les militants du parti des écologistes depuis le changement de nom en 2023. Donc je reprends. Mercredi 18 juin, les militants sartois du parti Les Écologistes recevaient dans leurs locaux, rue Nationale, un député d'Indre-et-Loire écologiste. Enfin, les écologistes, je vais y arriver. Charles Fournier, qui se présente lui-même. Qui êtes-vous ? C'est parti.
Je suis Charles Fournier, je suis député écologiste d'Indre-et-Loire, de la première circonscription de Tours, à peu près, donc un voisin.
Vous avez été élu en 2022, réélu en 2024, mais vous avez déjà eu une activité politique assez importante.
Effectivement, j'ai été élu conseiller régional et vice-président de la région Centre-Val de Loire, et mon premier mandat c'était 2010. Donc j'ai quand même quelques années d'engagement politique, mais un engagement total comme celui d'aujourd'hui comme député, c'est seulement depuis 2022, et effectivement réélu en 2024.
Il était invité du parti pour une discussion intitulée « Comment transformer l'industrie ?» Vaste question qu'il connaît pour avoir entamé un tour de France à la suite de la rédaction d'un manifeste.
Vous avez été le rédacteur d'un manifeste pour une industrie réellement verte en 2023. Depuis, vous faites un tour de France en 2024-2025. Avec quels objectifs ?
Alors d'abord, il y en a plusieurs. Il y a un objectif plus large qui est la question de la production, une question à laquelle notre pays a tourné le dos pendant des décennies. Et tout le monde a tourné le dos, pas seulement les écologistes, la droite, la gauche, tout le monde s'est dit on va avoir un pays tertiaire. Et vous en connaissez quelque chose ici au Mans, puisque même s'il y a encore un peu d'activité industrielle, c'est un territoire de tertiaire, les assurances, tout ça a pris. Voilà. Et puis aujourd'hui, et après le Covid particulièrement, on s'est interrogé sur notre souveraineté, sur nos approvisionnements, sur la façon dont nous produisions. Les conditions dans lesquelles nous allions produire. Et puis la crise énergétique est revenue mettre une couche pour réinterroger et nous constatons que nous sommes un des pays où la désindustrialisation était la plus forte en Europe. Et donc moi j'ai la conviction profonde que cette question elle est au cœur de nos vies. C'est ce que nous consommons tous les jours. Et donc consommer sans s'interroger finalement sur la façon dont nous produisons pose un vrai problème. Et je dirais que les écologistes ont pu paraître pendant longtemps comme les alliés de la désindustrialisation parce qu'ils étaient critiques sur les modes de production, leur impact écologique, leur impact sociaux. Et qu'aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'on considère bien que les écologistes ont aussi des réflexions sur ce que devrait être cette réindustrialisation, une autre industrie que celle que nous connaissons. Ce qui m'a conduit à écrire ce manifeste, c'était au moment d'une loi qui s'appelait la loi industrie verte, mais elle n'avait pas grand-chose de verte, cette loi. Et donc, du coup, dans ce moment-là, j'ai souhaité écrire un manifeste pour dire voilà ce que serait une vision écologiste. Et quelques temps après, je me suis dit, il faut aller plus loin. Il faut nourrir ce manifeste de rencontres concrètes dans le terrain, de celles et ceux que j'ai appelés les chevilles ouvrières de la transition industrielle et écologique. Et donc, je suis parti à la rencontre de toutes nos industries françaises, des salariés, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des associations, des riverains, des élus, bref, plein de monde. J'en suis à la 20e étape, enfin, bientôt la 20e étape. Au mois de juillet, ce sera la fin d'ailleurs, dans ma région, et je terminerai par l'Indre-et-Loire. Et là, je produirai un deuxième manifeste beaucoup plus dense, avec plus de solutions. Et puis, entre les deux, pour pas être trop long, j'ai aussi produit un certain nombre de propositions de loi, de cadres à l'Assemblée nationale. J'ai travaillé par exemple sur la logistique. J'étais déjà venu ici pour parler de la logistique parce que vous avez ici beaucoup d'entrepôts qui malheureusement occupent le peu de foncier qui peut être disponible pour la réindustrialisation. J'ai également déposé une proposition de loi il n'y a pas longtemps sur l'implication de l'État, la capacité à empêcher la disparition d'activités stratégiques. J'ai déposé une proposition de commission d'enquête concernant les matériaux stratégiques. Vous savez, le lithium par exemple. C'est absolument déterminant dans nos productions et on ne s'interroge pas sur où est la chaîne de valeur, comment ça fonctionne, est-ce qu'on veut que ça soit fait en France, à quelles conditions ça peut l'être. Il y a moult questions autour de tout ça et moi je souhaite qu'on y réponde et que les écologistes aient une doctrine solide sur ces sujets.
La loi industrie verte fut adoptée définitivement en octobre 2023. Alors oui, elle comportait des facilitations pour l'installation d'industries vertes ou leur réinstallation dans des friches industrielles. En clair, ces industries sont des industries qui permettent de créer des moyens de production décarbonés d'énergie. Oui, on sait très bien que pour les libéraux qui nous gouvernent, ce qui est vert, c'est là où il n'y a pas de dioxyde de carbone. Par contre, tu peux faire des armes, hein, mais tant que ton énergie est éolienne, ça passe. Mais aussi des industries utilisant des moyens décarbonés, plus ou moins décarbonés d'ailleurs, pour produire des biens et peu importe lesquels, tant que les énergies fossiles ont été remplacées par de l'électricité sans CO2. On rappellera que les libéraux qui nous gouvernent ont réussi à faire de l'électricité issue de la filière nucléaire une électricité verte. Tout va bien. La loi permet aussi de faciliter l'implantation de projets d'intérêt national majeur. Des PINM. Les PINM en question, c'est un projet peut être qualifié de PINM si il, je cite le texte de loi, revêt, eut égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. C'est un petit peu floux. Ce statut donne aux installations un blanc-seing pour déroger aux législations sur les espèces protégées et donc permet moins de recours juridiques possibles pour empêcher l'installation de, parfois, des gigafactories, des trucs bien bien grands. Où on peut faire plein de trucs qui servent à je sais pas quoi. À ce titre, une mine de lithium à Échassières dans l'Allier a été bombardée PINM. Et c'est près de là qu'auront lieu d'ailleurs les rencontres anti-extractivistes 2025, du 27 juillet. Plus d'informations sur le site nomines au pluriel land2025.wordpress.com. nominland2025.wordpress.com. Point com. On comprend mieux la réticence de Charles Fournier à considérer cette loi comme réellement verte, tant elle avantage les industriels en oubliant de penser la suite des événements une fois l'industrie, la mine, le PINM implanté. Cependant, quand on écoute le député, il se plaint des entrepôts logistiques parce qu'ils prennent la place des futures usines, alors qu'ils prennent surtout la place de terres arables. Mais comme il le dit lui-même, hein, il va vite. Il nous répond vite. Alors continuons à explorer l'industrie désirable pour le Parti des écologistes à travers le manifeste rédigé par Charles Fournier en 2023.
Pour reprendre ce que vous disiez dans le manifeste de 2023, vous proposez un changement de paradigme pour faire justement une industrie réellement verte, puisque c'est le titre. Alors sur le plan culturel, pour vous citer, sortir de notre rapport de domination sur la nature, est-ce que ça va être compatible avec une société industrielle ?
Moi, ce que je dis, c'est que notre capacité de production doit être à la fois en mesure de répondre aux besoins sociaux, les besoins essentiels, pas au superflu, pas à ce qui ne nous amène rien dans nos vies ou peu de choses. Et puis, elle est aussi contrainte par les limites planétaires. Il faut se situer entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération ces limites planétaires, sinon il n'y aura plus d'économie, plus de production, plus d'industrie, et malheureusement, c'est le vivant qui sera attaqué. Donc d'un côté, on a ces limites, le climat est une limite planétaire, la biodiversité est une limite planétaire, les pollutions sont des limites planétaires, on les connaît, il y en a 9 et il y en a 6 qui sont dépassées aujourd'hui. Et puis, en même temps, on ne peut pas vivre avec rien, on a besoin de produire. Et donc il faut réajuster notre production en fonction de ce qui nous est réellement nécessaire, de nos besoins, et en fonction de ses limites planétaires. Et c'est ça qui n'est pas simple comme exercice, évidemment, parce qu'il faut définir démocratiquement, ensemble, ce qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, vous ne définissez pas ce qui est nécessaire. C'est le marché qui, lui, est sur une logique de l'offre, qui vous dit, vous devez consommer ça, vous avez besoin de ça, c'est indispensable. Et au nom de ça, on arrive à des folies comme, par exemple, la fast fashion. Vous savez, cette mode jetable. Des marques comme Shein qui mettent en ligne des produits jusqu'à 1000 articles par jour en ligne différents et qu'on achète à rien mais qu'on jette au bout et c'est des tonnes de déchets et c'est des tonnes de matières premières qui disparaissent. On a là des difficultés majeures et ça, moi je pense qu'on n'en a pas besoin. On a besoin de se sentir bien, d'avoir de beaux vêtements, on a besoin de tout ça. Mais comment on pourrait le fabriquer en répondant et à nos besoins mais en tenant en considération des limites planétaires? Voilà, c'est ça l'ambition pour moi, en tout cas le cap majeur de cette réorientation de notre économie et de notre industrie.
En effet, faire coexister le respect des équilibres de nos milieux de vie et la production de ce dont nous avons besoin, voilà le défi. Pour définir les équilibres de nos milieux de vie, des scientifiques ont conceptualisé les limites planétaires en 2009. Ces limites sont au nombre de 9. Ça a été affiné depuis, mais on peut quand même continuer à les citer. Alors, en premier lieu, le changement climatique, ensuite érosion de la biodiversité, modification des usages des sols, utilisation d'eau douce, perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, ça c'est pour les sols, acidification des océans, c'est pas très très bon pour les animaux qui habitent dedans, ni pour les plantes qui habitent dedans, aérosols atmosphériques, diminution de la couche d'ozone, pollution chimique. 6 sont dépassés. Sur les 9 donc, que je viens de vous citer, de limites planétaires, 6 sont dépassées, donc l'équilibre est rompu. Le changement climatique est en train de rendre des territoires entiers difficiles à vivre. L'érosion de la biodiversité affole les compteurs avec des chutes vertigineuses pour les plantes, mais aussi pour les animaux. Les humains occupent et modifient les sols de manière déraisonnable. L'eau douce devient une denrée encore plus rare et la source de tensions entre les États, mais aussi entre les habitants. Les activités agricoles productivistes perturbent des cycle biochimique, le cycle de l'azote et le cycle du phosphore, rendant infertiles des régions entières. La pollution chimique, enfin, devient délirante. On vous renvoie aux émissions de mai qu'on avait fait sur les perturbateurs endocriniens, par exemple. Bon, l'idée n'est pas d'affoler le populo, mais bien de regarder la fin du monde en face. Entendre le député pointer du doigt le rôle funeste du marché et le besoin de déterminer collectivement du nécessaire rassure sur la nature écologique de l'industrie proposée. Car il va bien falloir choisir ce que nous continuons à produire et donc renoncer à d'autres filières. Charles Fournier nous donne son avis sur le sujet.
Mais puisque la production industrielle est justement basée sur l'offre, nous faire croire qu'on a besoin d'un certain nombre de choses et nous les vendre grâce à la publicité, comment garder une industrie tout en essayant de planifier ses productions ?
Je redis, ce qui est compliqué, c'est de choisir ce dont on a besoin et pas besoin. Mais il y a un moment donné, on finit par prendre des décisions parce qu'on mesure qu'on ne va pas s'en sortir si on continue dans ce chemin. Je vous prends un exemple, le plastique. Il y a à l'heure actuelle une négociation internationale pour réduire de 80% la production de plastique d'origine pétrolière. c'est une limite planétaire qui est atteinte sur le sujet. On sait qu'on ne pourra plus avec le pétrole, qu'il faut sortir du pétrole. Bah, vous voyez bien qu'il faudrait anticiper ça, organiser la sortie de la pétrochimie du plastique pour aller vers d'autres activités qui vont permettre du réemploi, de la réutilisation, moins d'usage de plastique, du plastique d'origine plutôt biologique. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Mais ça, il faut une stratégie, il faut un plan. C'est pas qu'on parle de planification, l'expression « il faut un plan », c'est bien ça. Et on n'a pas ça. On a l'impression qu'on est à essayer de maintenir le niveau de profitabilité d'un certain nombre d'activités au lieu de les reconnecter au réel et au physique. D'ailleurs, les scientifiques nous interpellent là-dessus. C'est pas Charles Fournier qui dit ça. Je m'appuie sur des réalités scientifiques. Et donc, bah voilà, typiquement, une filière qui va décroître. On le sait. Est-ce qu'on attend d'être au pied du mur, de fermer l'usine avec les salariés qui pleurent, des familles, des territoires qui sont désossés? Ou est-ce qu'on anticipe et on se dit, réorientons cette activité, changeons les chaînes de production, mettons de l'argent à cet endroit-là et pas à perte, parce que parfois on met de l'argent à perte avec des entreprises qui finalement ne respectent aucune contrepartie à ces financements. Voilà. Si demain on doit produire des semi-conducteurs dans notre pays parce qu'on en a besoin, il y a une entreprise chez moi qui s'appelle ST Microélectronique, moi je suis pour qu'on produise des semi-conducteurs. Mais je veux qu'on dise dans quelles limites, quels sont les besoins essentiels pour pas aller vers une production complètement folle qui nous mettrait dans des situations difficiles parce que c'est de la matière première qu'il faudra trouver, parce qu'on utilise beaucoup d'eau pour fabriquer des semi-conducteurs. Il y a des réajustements de filières qui doivent produire moins et mieux les voitures, je le dis. Le marché de l'automobile va diminuer. On peut le prendre sous tous les angles, il a déjà diminué en volume. Donc à un moment donné, ça va se stabiliser. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On continue la casse des sous-traitants partout. Vous en connaissez quelque chose ici, là. Les sous-traitants automobiles qui tombent les uns derrière les autres parce que les donneurs d'ordre réinternalisent, limitent leur production en France pour les délocaliser ailleurs. On a là de vrais enjeux de porter une vision sur ces transformations-là. Moins de voitures, il y aura plus de vélos. Il faut soutenir la filière du vélo. Qu'est-ce que vient de faire l'État ? Un stop and go. J'aide une année la filière vélo et j'arrête de l'aider l'année d'après. Ça va pas. C'est de ça dont il faut sortir. Et la planification, elle est absolument nécessaire.
Donc la planification, on aura compris que ce n'est pas celle appelée de leur vœu par les trotskistes du Parti ouvrier indépendant de toute obédience. Mais ce n'est pas non plus celle du haut commissariat actuel qui aura servi de strapontin à François Bayrou à partir de 2020 pour continuer à exister politiquement à parapot. Même s'il a exercé la fonction à titre gratuit, l'absence de rémunération n'empêche pas quelques avantages en nature. Et maintenant, ce haut commissariat sert de poste de recasage rémunéré pour Clément Beaune, un macroniste historique, on peut le dire, qui a été un petit peu ministre et qui ne l'est plus. Et ben, depuis le mois de mars 2025, le voilà, haut commissaire au plan et à la stratégie. C'est donc une autre planification qui est proposée par Charles Fournier, une planification pour ne pas produire n'importe quoi, n'importe comment. Parce qu'il est vrai que les semi-conducteurs, waouh, c'est des puces, quoi, en fait, hein, tout simplement. Ça fait plus joli d'appeler ça des semi-conducteurs. Quand on voit comment c'est produit, où c'est produit, faudra un jour qu'on en parle. Eh bien, ne pas produire n'importe quoi, n'importe comment, avec un écueil important, le libéralisme économique à l'œuvre dans le pays et le souci permanent du profit, qui veut, lui, produire n'importe quoi, n'importe comment, tant que ça se vend. Et avec cette motivation, accumuler du pognon, on voit mal un industriel renoncer à sa production, ni même renoncer à produire moins, ni même renoncer à délocaliser si ça lui permet de gagner plus. Alors comment organiser cette planification ?
Vous dites on, c'est-à-dire l'État pourrait, oui, investir dans ce genre de choses, les filières qui voient leur emploi dégradé et alors essayer de réorienter, mais on est dans un changement de paradigme là, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque actuellement c'est le libéralisme, c'est-à-dire laisser faire, laisser passer. Ça veut dire que les écologistes proposent un État qui soit un peu plus acteur dans l'économie ?
Moi je veux un État stratège. Quand je dis État, je vais dire puissance publique. Parce que ça va de l'Europe, que je souhaite stratège sur ces questions-là, de l'État et des collectivités territoriales. Je ne peux pas me satisfaire, dans le moment dans lequel nous sommes, avoir un ministre qui vient nous dire « on va accompagner au mieux possible les salariés avec plein d'empathie, mais on ne peut rien faire ». Voilà, un exemple. Et pourtant, je suis un écologiste et je défends, vous imaginez bien, la sortie du nucléaire à terme. Mais une entreprise comme Vencorex, qui fabrique un élément absolument stratégique pour le nucléaire, qui est du côté de l'Isère. Cette entreprise est en concurrence avec les Chinois. On se retrouve à avoir un projet de fermeture du site et de suppression des emplois. Qu'est-ce qui se passe ? Les Chinois viennent, font une OPA sur cette entreprise. Notre État, il est incapable de dire non, alors que les salariés avaient un projet de reprise de l'entreprise. Vous voyez, on pourra dire que le nucléaire, c'est la souveraineté. C'est pas vrai. Si toute la chaîne de valeur dépend de pays comme les Chinois, ils peuvent nous couper les vivres quand on veut. Donc je ne suis pas pour le repli sur soi, parce qu'il y aura encore des dépendances, mais je suis pour la maîtrise démocratique de nos activités économiques. Et donc pour ça, sans puissance publique, sans fonctionnaires aiguisés, sans la capacité pour l'État de prendre des parts, parfois, dans certaines entreprises. Il y a une agence des participations, hein, dont c'est le rôle. Mais là, je vois, par exemple, BPI France, qui est la banque d'investissement public français, qui est une sorte de fonds souverain français. Bah, BPI, président du conseil de surveillance de ST Microélectronique, le patron nous dit, bah ouais, mais là, franchement, le site de Tours, si vous ne vous battez pas, il va disparaître. Mais c'est nos budgets de famille. Mélanie, elle a tapé du poing sur la table. Donc la ligne qui est à Tours, elle s'en va à Catane, en Italie. Je ne peux pas accepter ça. Et je ne suis pas pour le repli franco-français, ce n'est pas ça. Certainement pas, d'ailleurs, je suis pour raisonner en européen. Mais s'il n'y a pas une puissance publique qui peut dire « Attention, ça c'est une activité stratégique, on empêche qu'elle disparaisse », ça ne veut pas dire qu'on nationalise. Ça veut dire qu'on prend la main temporairement s'il le faut. C'est ça le sens de ma proposition de loi. Et ensuite, on imagine des stratégies. Il faut plus de protection au niveau européen. Nous n'avons pas le choix avec ça. Des marchés réservés, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il y a plusieurs mesures qu'il faut mobiliser. Ce n'est pas un protectionnisme pour se replier sur nous-mêmes, mais c'est un protectionnisme pour recréer de l'égalité dans les échanges et les marchés avec d'autres.
L'indépendance énergétique grâce au nucléaire, c'est déjà totalement faux par rapport au combustible. Aucun gramme d'uranium n'est sorti du sol national depuis belle lurette, ce qui n'empêche pas les anciennes mines de continuer à générer de la pollution nucléaire et donc sans doute des dangers pour les populations, par exemple dans le Limousin. Et ce n'est pas le fumeux combustible MOX qui changera ce constat. Un État stratège, c'est donc l'objet de la proposition de loi de Charles Fournier déposée début juin et qui n'a pas encore commencé son parcours dans les méandres du Parlement. On voit qu'il a du mal à utiliser le mot nationalisation, on voit que ça s'inscrit quand même une logique qui est la logique de l'économie actuelle. Continuons avec Charles Fournier dans la doctrine des écologistes en termes de stratégie industrielle.
Ça veut dire retrouver un peu plus d'autonomie, que ça soit au niveau national, mais aussi au niveau local.
Ma définition de la souveraineté, parce que je trouve qu'on dit un peu tout et n'importe quoi sur la souveraineté, j'aime à dire que la souveraineté, c'est la maîtrise démocratique de nos dépendances et de nos indépendances. C'est-à-dire que il faut que nous soyons dans des dépendances que nous avons choisies, qui sont équitables. Il faut coopérer avec d'autres. Il ne faut pas faire croire, parce que ça, le Rassemblement national, par exemple, il fait croire ça, qu'on va tout produire ici, qu'on va se replier sur nous-mêmes. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on va continuer de commercer avec d'autres. On va continuer d'avoir besoin des autres qui produisent des éléments que nous n'avons pas. La France, aujourd'hui, malheureusement, elle est trop dépendante des importations et des matières premières qui viennent d'ailleurs. Donc, il faut effectivement relocaliser une partie, reprendre un peu de maîtrise sur nos chaînes de valeur et se dire, à cet endroit-là, on accepte d'avoir des coopérations parce qu'elles sont équitables. Par contre, à cet endroit-là, on doit prendre la main dessus. C'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Il y a un Conseil national de l'industrie, mais il ne fait pas ce job. On a l'impression que ce Conseil national de l'industrie, il est au service du business des industriels. Moi, ça ne me va pas. Je veux qu'on discute avec eux, qu'on impose des règles, qu'on soutienne quand il faut soutenir, parce que je ne suis pas anti-industriel, bien au contraire. Mais j'ai une petite formule, je dis souvent, que j'ai emprunté à d'autres, dans d'autres domaines, l'industrie, c'est trop important pour qu'on la laisse que aux industriels. Il faut qu'ils soient dedans. Mais on a besoin des salariés, on a besoin des habitants, on a besoin des riverains, on a besoin des chercheurs. À Tours, la ligne de production dont je vous parlais de semi-conducteurs, elle a été construite avec un laboratoire de l'Université de Tours. Et là, la boîte annonce qu'elle enlève la ligne. Tout le territoire a investi là-dessus. C'est plus possible, ces situations-là. Pour un moment, il faut plus de protection, il faut rechercher de la coopération avec d'autres, il ne faut pas qu'on se replie sur nous-mêmes, il faut plus de maîtrise de nos chaînes de valeur. Et on est un des pays où la balance commerciale est négative. Voilà. Ça dit quelque chose quand même de notre situation économique.
Je pense que l'impression du député est valide. Hein. Les instances étatiques, comme le Conseil national de l'industrie, travaillent pour pérenniser simplement le business. Le business comme il est actuellement. Mais le vocabulaire employé par Charles Fournier est très proche de celui des libéraux, qui nous gouvernent, même si dans le discours, la démocratie, la critique du profit et la nécessité de ne pas laisser faire, laisser passer sont présents. Dans cette première partie, nous avons surtout entendu la doctrine des écologistes sur l'industrie à travers la macroéconomie. Mais qu'en est-il des propositions plus proches de la population ? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. N'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net. Pourquoi ? Parce que par exemple, le mardi 1er juillet, il se passe plein de choses pour sauver les associations, en tout cas se défendre. Société sans asso, société en morceaux. Rendez-vous à 17h, place de la République, vers un soulèvement associatif. Voilà une mobilisation nationale, parce que les associations n'ont pas envie de se laisser bouffer comme ça par nos soi-disant représentants qui de fait détruisent les solidarités entre les populations à travers la destruction du tissu associatif qu'ils ne financent plus. Je rappelle quand même à nos soi-disant représentants que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de toute la population. On se quitte là-dessus en vous disant à très bientôt. Non, c'est pas ça, c'est allez, au revoir.